Chapitre 13. Je venais d'atteindre ma majorité quand ce grand malheur que j'ai conté fondit sur moi. Cette année-là aussi, j'avais tiré au sort. Mais la débilité de ma constitution, la faiblesse de ma poitrine, firent que je fus réformé. Ma famille n'eut même pas la ressource espérée que je devinsse soldat, ce qui eût été un débarras pour elle. Mon pauvre père disait « Si la malchance veut qu'il ait un mauvais numéro, eh bien, il faudra se faire une raison. » Ma pauvre mère disait « Ce serait presque à souhaiter, ça le déniaiserait peut-être. » Mon pauvre père disait encore « Qui sait, il ferait peut-être sa carrière dans l'armée. » Ma pauvre mère disait encore « Il pourrait peut-être devenir sergent. » Ses espérances furent déçues. Je me souviens de la déconvenue de ma mère, de la grimace qui plissa ses lèvres, quand, revenant du conseil de révision, mon père dit « On n'a pas voulu de lui. » On n'avait même pas voulu de moi pour cette vie dégradante de la caserne, pour ce torturant métier de soldat. On ne m'avait même pas trouvé bon pour ça. Oh, le regard qu'ils me jetèrent! Aussi faible d'esprit que de corps, je ne défendis pas mes intérêts dans la succession qui nous échut d'une façon si terrible et si imprévue. Je laissai mes sœurs et mes beaux-frères agir comme ils voulurent, et je ne protestai pas contre les parts exorbitantes qu'ils s'attribuèrent. Mes sœurs essayèrent de légitimer leur rapt par des raisons domestiques. « Il est juste, m'expliquèrent-elles, que nos parts dans la succession soient un peu plus fortes que la tienne. Tu dois le reconnaître. C'était d'ailleurs dans les intentions de mon père. Tu as coûté beaucoup d'argent à nos parents. Il a fallu payer pour toi des années et des années de collège, qui furent très lourdes, très chères, et nous valurent à nous autres des privations de toutes sortes. Puis tu es resté à la maison, jusque maintenant, sans gagner un sou, est-ce vrai? Dieu sait ce que l'on a dépensé pour ton entretien et ton instruction. Bien inutilement. Enfin, nous ne récriminons pas, mais tu dois comprendre qu'au lieu d'être une charge pour tout le monde, tu aurais pu te suffire à toi-même. Regarde tous les jeunes gens du pays qui ont ton âge. Que nous supportions les conséquences de ta paresse ou de ta bêtise, cela n'est pas juste. Nous n'avons rien coûté, nous. Au contraire, nous avons dirigé la maison, nous avons travaillé, nous avons été la source de nombreuses économies. Il est donc raisonnable que nous rattrapions tout cela aujourd'hui. Je ne les écoutais pas. D'abord, je n'aurais pas su discuter de telles questions, et puis ma pensée était ailleurs. J'étais encore trop ébranlée par cet horrible drame pour m'attacher à quoi que ce soit de terrestre. Je répondais machinalement « Faites ce que vous voudrez, je ne tiens à rien. » Mes sœurs étaient des femmes de précaution et d'ordre. Elles voulaient me voler, mais légalement. Mais honnêtement, pour régulariser les choses et mettre en repos leur conscience, elles me firent signer une renonciation, antidatée, à tous mes droits sur la succession de ma mère, la plus importante des deux. J'avouais, par cet acte d'humiliation et de repentir, avoir été un mauvais fils, un dilapideur de fortune, avoir failli causer, par de sales passions et des dettes honteuses, la ruine de mes parents. Je reconnaissais l'éclatante vertu de mes sœurs, leur désintéressement, leur héroïsme dans ces circonstances douloureuses, et je les suppliais d'accepter une restitution que le remords de ma vie passée et la justice me commandaient d'accomplir solennellement. Je signai ce papier, je les signai tous, et j'eus à me dépouiller une joie violente. Il me sembla que de ne pas posséder, cela me rendrait l'âme plus légère. Au soulagement que j'éprouvais, l'amour de la propriété m'apparut comme un crime. Et je vis, plus nettement encore, ce que j'avais vu tant de fois, durant les longs mois passés à l'étude du notaire, les hideuses déformations que ce sentiment met sur le visage des hommes, les lueurs farouches dont il emplit leurs regards. J'aurais voulu seulement conserver quelques souvenirs de mon père. Souvent, mon père avait dit « Quand je ne serai plus, ma montre en or sera pour le petit. » Mes sœurs se récrièrent. Elles prétendirent que jamais mon père n'avait proféré de pareilles paroles, que je voulais les frustrer. Elles ne me permirent pas de m'approprier la moindre babiole. Et tout fut dispersé au vent des enchères publiques. Elles vendirent tout, jusqu'aux robes de ma mère, jusqu'à des médailles bénites et un petit scapulaire jauni qui gardait encore l'odeur de cette chair d'où elles étaient nées. Les affaires terminées, j'appris qu'il me revenait, à peu près, 1 800 francs de rente. Cela me fut indifférent. Je n'avais pas même compté sur un tel revenu. Mes sœurs auraient pu tout me prendre que je n'aurais pas eu l'idée de protester. Je n'avais qu'un désir, c'est qu'elles partissent, que je n'entendisse plus le glapissement de leur voix qui m'était devenu intolérable. J'avais besoin de me recueillir, et leur présence me gênait, m'irritait, faisait s'évanouir le peu d'idées qui me restaient à la suite de tout ce dérangement dans ma vie. Le matin de leur départ, ma sœur aînée me dit « Maintenant, que vas-tu devenir ?»« Je n'en sais rien, » répondis-je. Elle n'avait plus la voix si sèche ni le regard si dur. Elle essaya même de me prendre la main affectueusement. « Il faut pourtant y penser. Ton avenir m'inquiète, mon pauvre ami. » Et comme je restais silencieux, elle reprit « Je comprends que tu ne puisses prendre une résolution immédiate. » Mais, en attendant, où vas-tu aller ?
Je n'en sais rien.
Tu n'es pas raisonnable. Écoute, voici ce que je te propose. Viens chez nous. Je te logerai, je te nourrirai, tu seras bien soigné. Mon mari te donnera de bons conseils. Il connaît beaucoup de gens qui peuvent être utiles. Et je ne te demanderai que 125 francs par mois.
Non, je ne veux pas aller chez toi.
« Et pourquoi ?»«
Parce que je ne veux pas. Parce que je ne veux pas. »
Alors, ma sœur, comprenant que ma décision était irrévocable, souleva le masque d'hypocrisie et de fausse émotion dont elle avait couvert son âme.
« À ton aise, mon garçon !» dit-elle d'une voix coupante. « Seulement, tu sais, quand tu seras malheureux, il est inutile que tu viennes frapper à ma porte. Espèce de brute, va !»
Mon autre sœur vint ensuite, et Caline, elle aussi. « Je comprends, fit-elle, que tu n'aies pas accepté ces propositions. Mais moi, je n'ai jamais été méchante pour toi. Je t'ai toujours bien aimée, moi. Viens chez moi, tu seras dorlotée, on ne t'ennuiera jamais, tu feras ce que tu voudras. Et tu ne nous donneras que 100 francs par mois. »
Le dégoût me souleva le cœur.
« Allez-vous-en » criai-je. « Allez-vous-en ! Vous êtes laide, laide, laide ! Allez-vous-en ! Ah, que je vous déteste !»
Et lorsque je demeurai tout seul, dans la grande maison vide, vendue comme le reste, et que je devais quitter le lendemain, une grande peur me saisit. « Que vais-je devenir ? » gémis-je en me laissant tomber sur le parquet. Et je sanglotais toute la nuit, en répétant tout haut « Mais que vais-je devenir ? Que vais-je devenir ?»
Chapitre 14.
Oui, qu'allais-je devenir ? Doute terrible, effrayant point d'interrogation. J'étais incapable d'entreprendre quoi que ce soit. Ma faiblesse physique, et aussi les préjugés d'une éducation ridicule, m'éloignaient de tout métier manuel. Mon ignorance de toutes choses, soigneusement entretenue, m'interdisait ce que, par un dérisoire euphémisme, on appelle les carrières libérales. Et j'avais un instinctif, un invincible dégoût pour les professions judiciaires, gabellaires, administratives, qui me semblaient odieuses et déshonorantes, en ce sens qu'elles consacraient la servitude de l'homme et officialisaient son parasitisme. D'ailleurs, autour de moi, personne pour m'y pousser. Rester au pays, je n'en gardais que de tristes souvenirs. Tout m'y était devenu intolérable, même les paysages les mieux aimés, qui se couvraient aujourd'hui d'un voile de douleur. Et qu'y faire? Dormir dans la paresse, comme une larve sous sa pierre? Mieux eût valu mourir tout de suite, car c'est la mort que je voyais toujours au bout de ces réflexions. Elle était la solution nécessaire, implacable et presque désirée de ce problème, insoluble de vivre. Je comprenais, obscurément, que l'homme est fait pour agir, pour créer, qu'il possède un cerveau pour concevoir des formes de vie, des énergies musculaires pour les réaliser et les transmettre. Bien que je ne connusse rien au mécanisme mondial, pas plus qu'au machinisme social, je sentais que tous les êtres, sous peine de déchéance et de mort, doivent obéir à cette loi suprême, à cette loi génératrice du mouvement, le travail. Mais l'autorité paternelle, en me gorgeant de mensonges, avait détruit le peu de conscience individuelle qui était en moi jadis. Elle avait étouffé les aspirations spontanées qui avaient élevé un moment mon esprit vers la conquête des choses. Le peu d'amour qui m'avait conduit à trouver désirable et belle la possession, ou plutôt la recherche des mystères qui sont dans la terre et dans le ciel. J'essayais de rallumer les enthousiasmes éteints, mais il n'y avait plus en moi que des cendres froides. Et je sentis passer sur ma nuque le vent glacé du néant. Qu'on me comprenne bien, ce que je voulais à cet instant, ce n'était pas gagner de l'argent. De l'argent, j'en avais assez pour vivre, ou du moins pour ne pas mourir de faim. Nul désir de lucre n'entrait en mon âme, je le jure. C'était agir que je voulais. C'était utiliser mes bras que je voulais, et les battements de mes veines et les ondes chaudes de mon cerveau pour une œuvre. Mais quelle œuvre ! Rien de ce qui m'avait passionné autrefois ne correspondait plus à une forme de l'activité humaine. Et devant la terreur de vivre, j'étais comme un enfant débile en face d'un gros bloc de pierre qui barre sa route et qu'il ne peut remuer. Depuis, j'ai souvent pensé à ces choses. Souvent, j'ai réfléchi aux presque insurmontables difficultés qu'un jeune homme trouve dans la vie à exercer ses facultés selon leur naturelle impulsion. Elles sont effroyablement logiques, ces difficultés. Elles tiennent, comme le mensonge, à cette harmonie universelle du mal qu'on appelle la société. La société s'édifie toute sur ce fait, l'écrasement de l'individu. Ses institutions, ses lois, ses simples coutumes, elles ne les accumulent autant, elles ne les rend aussi formidables que pour cette tâche criminelle, tuer l'individu dans l'homme, substituer à l'individu, c'est-à-dire à la liberté et à la révolte, une chose inerte, passive, improductive. Et j'admire qu'il y ait eu, et qu'il y ait encore, des êtres assez forts pour avoir résisté à cette lourde pesée. Quelle énergie, quelle volonté, quelle ténacité puissante, ou quelle inconcevable chance, afin de pouvoir ainsi survivre à la mort et de montrer au monde consterné la face miraculeuse et vivante du génie. Au plus fort de ma détresse, j'éprouvais une grande joie. Je rencontrai Lucien, un jour que j'allais par la campagne, ressassant ses intolérables pensées. Lucien était le fils d'un boucher de chez moi. Son père lui avait fait donner une brillante éducation, comme mon père à moi. Mais Lucien était doué d'une énergie peu commune. Il était sorti, l'esprit sain et le corps sauf, de l'abrutissement du collège. Ses études terminées, il déclara à son père qu'il voulait être peintre. Sur le refus indigné de celui-ci, celui-là quitta un soir la maison paternelle et s'enfuit à Paris. À Paris, il vécut, on ne sait de quoi, de misère et d'espérance. Puis, le père et le fils se réconcilièrent, à la suite d'un article de journal où le nom de Lucien était cité élogieusement. Le bonhomme s'admira dans ce miroir de vanité qu'est un nom imprimé, et pardonna. Lucien venait, de temps en temps, passer quelques jours au pays. Il y travaillait à sa peinture avec une singulière âpreté. On le voyait dans les champs, au bord de la rivière, piquer, n'importe le temps, son chevalet et barbouiller d'étoiles de couleurs étranges. Un artiste ou un assassin, c'est à peu près la même chose pour les habitants paisibles des campagnes. Cela comporte les mêmes terreurs, le même inconnu de vie dépravée et maudite. Dans un petit pays comme était le nôtre, ce sont des hors-la-loi, des hors-la-vie. On s'en détourne comme des rôdeurs le soir, ou des diables la nuit dans les forêts hantées. Mon père m'avait autrefois défendu de fréquenter Lucien. Un ténébreux vaurien qui mangeait l'argent de ses parents, et à quoi, Seigneur Dieu ? Je souffris beaucoup de cette interdiction, car Lucien m'attirait. Il ne me semblait pas pareil aux autres. Il y avait dans ses yeux une lueur, nullement diabolique, et comme il n'y en avait pas de semblable dans les yeux des autres. C'était un jeune homme de quelques années plus âgé que moi, grand, mince, avec une jolie figure, énergique et douce, et tout illuminé d'ironie charmante et légère, avec un rien de triste, parfois. Il vint à moi le premier. « Eh bien, je ne te fais plus peur maintenant !» me dit-il en me tendant les mains. « Oh non, fis-je, et je suis bien heureux de te voir, si tu savais. Et si tu veux, je te verrai tous les jours. Je t'accompagnerai quand tu iras travailler. Je porterai tes affaires. » J'avais mis une véritable passion à débiter ces mots. Lucien me regarda avec un air de bonté un peu triste. « Et que fais-tu maintenant ?» demanda-t-il. « Rien, » répondis-je. Et comme si un ressort se fût tout d'un coup déclenché dans la langue, avec une volubilité de parole extraordinaire, je lui racontai toute ma vie. Je lui dis tout ce qui me torturait, les ténèbres où s'enfonçait ma raison, mes désirs de lumière et les désespoirs où j'étais de ne les connaître jamais, jamais. Tout cela mêlé de gestes violents, de serrements de main, tels que j'avais la sensation de toucher, d'étreindre quelques branches libératrices. « Tu es épatant !» me dit Lucien. Puis, après un silence, pendant lequel il me considéra avec des regards pénétrants et mélancoliques, « Sais-tu quel est ton mal à toi ? Eh bien, je vais te le dire. Tu es un artiste. Et c'est fâcheux, parce que, vois-tu, ce n'est pas le tout d'être un artiste. Il faut être un homme aussi, enfin. « C'est beau, l'art ? » demandai-je. Lucien répondit « Ouais, c'est beau. » Puis il fit un geste vague et il reprit « Mais tout est beau quand on sent, quand on comprend. Allons, viens. » Je ne le quittai pas, durant les 15 jours qu'il passa au pays. Ses paroles m'émerveillaient. Elles ne m'étaient pas inconnues. Il me semblait les avoir entendues, jadis, et elles me charmaient, comme les vieilles musiques avec lesquelles on a été bercé. Quand Lucien partit pour Paris, je partis avec lui. Chapitre 15. Lucien me trouva, dans la maison qu'il habitait, une petite chambre. J'achetai quelques meubles de hasard, quelques livres choisis, et je m'installai, là, avec joie, avec confiance. de savoir Lucien sous le même toit que moi, non loin de moi, cela me fut une sécurité. Je me crus moins perdue, mieux protégée par sa présence, dans cet inconnu où je venais de me jeter, et qui, autour de ma frêle personne, de mon âme inquiète, grondait comme une mère terrible. Puisqu'il avait pu surmonter tant de difficultés, vaincre tant de misères, il m'aiderait à surmonter et à vaincre celles qui ne manqueraient pas de se presser devant moi. Avec lui, je ne les redoutais pas. En marchant dans ma chambre mansardée, en contemplant mon mobilier de pauvre, il me sembla même que j'avais déjà conquis la suprême richesse. Et je me mis à lire, à lire, à lire. Depuis que j'avais quitté le pays, j'étais vraiment un autre. Oui, il y avait en moi quelque chose que je n'avais pas encore connu en moi. Il y avait en moi quelque chose que je n'avais pas encore senti vivre en moi. Quelque chose que je n'aurais pu définir, mais qui me soulevait de terre, me rendait léger, presque impondérable vraiment. Comme lorsque, la nuit en rêve, je traversais les espaces aériens, les pieds dans le vide, le front dans les étoiles, les bras étendus et battant ainsi que des ailes. J'étais heureux. Non, ce n'est pas heureux que je veux dire. Je n'étais pas heureux. J'étais angoissé, mais d'une délicieuse angoisse, de cette angoisse qui vous mord le cœur, qui vous emplit la poitrine, d'on ne sait quoi de fort, de bonheur ou de souffrance, avant les rendez-vous d'amour. Et je lisais, je lisais, je lisais. Je lisais de tout, sans pouvoir jamais me rassasier de lire. Je lisais avidement, comme boit un blessé dans les déserts de feu, comme boit un blessé qui enfonce toute sa tête dans les eaux fraîches de la source miraculeusement rencontrée. Lucien, un jour, me dit « Tu veux écrire ? Tu sens en toi quelque chose qui te pousse à écrire ? Quelque chose qui te démange les mains, comme une fièvre, et te monte à la gorge comme un sanglot ? Est-ce ça ? Oui ? » Je ne sais pas, je ne pourrais pas expliquer, mais je crois bien que c'est ça. Eh bien, mon garçon, tu lis trop, tu avales de travers un tas de choses que tu digères mal, ou que tu ne digères pas du tout. Moi, je suis sûr que c'est très mauvais. Que faut-il que je fasse ? Il faut vivre, mon petit. Pour toi, il n'y a pas de livre. Pour moi, pas de tableau qui vaille cette chose, la vie. Dis-moi, conseille-moi, apprends-moi, je ne fais que naître, je suis tout petit et plus faible qu'un enfant, et il me semble que les os de mon crâne mollissent encore sous les doigts. Tu comprends, moi, la littérature, ce n'est pas mon métier, je n'y entends rien. Quand c'est beau, je sais que c'est beau, voilà tout. Je cherche autre chose, je cherche. Et la figure plissée de grimaces, il traçait dans l'air, avec son doigt, d'idéales figures. « Je cherche ça, saisis-tu ? Pourtant, je crois bien que tous les arts se ressemblent. Écrire, ou peindre, ou mouler, ou combiner les sons. Oui, je crois que c'est la même douleur, vois-tu. Et veux-tu que je te dise ? Un menuisier, un brave homme qui ne sait rien de rien, et qui fabrique une table, ou une boîte. Oui, eh bien, si les proportions sont justes et les lignes belles. Ma foi, enfin voilà, c'est mon idée. Je t'en prie, Lucien. Moi, à ta place, voilà, je sortirai, je me promènerai, j'irai dans les rues, le long des quais, dans les jardins, partout. J'observerai les visages, les dos, les yeux qui passent. Et puis, je me demanderai ensuite ce que cela signifie et comment je puis l'exprimer. L'art, mon garçon, ce n'est pas de recommencer ce que les autres ont fait, c'est de faire ce qu'on a vu avec ses yeux, senti avec ses sens, compris avec son cerveau. Voir, sentir et comprendre, tout est là. Et puis exprimer aussi, diable. Mais que veux-tu exprimer si tu n'as rien vu, et si ce que tu as vu, tu ne l'as pas compris ? voir, sentir, comprendre, ces trois mots, il les répétait à chaque instant. Cela résumait toute son esthétique parlée. Lucien n'était pas éloquent, il avait même de la difficulté à exprimer ses idées. Lorsqu'il se lançait dans une théorie, les mots sortaient avec peine de sa bouche contractée, et les phrases commencées, il les achevait souvent dans un geste qu'accompagnait toujours en manière de conclusion cette trinité de verbes « voir, sentir et comprendre ». Le matin, je déjeunais rapidement dans une crèmerie de notre rue, et le soir, avant le dîner, j'allais retrouver Lucien à son atelier. Il n'aimait pas qu'on vînt le voir durant la pioche, comme il disait, et la plupart du temps, il s'enfermait à double tour, voulant être seul, sans nul bruit autour de lui. Quand j'arrivais à l'heure habituelle, je le trouvais toujours devant sa toile fraîche de peinture, assis sur un escabeau bas, le corps tendu, ployé en avant, le menton dans les mains, et fumant avec rage une grosse pipe. Souvent, il ne m'entendait pas entrer, et bien que je fusse là, près de lui, il semblait ne pas me voir. Peut-être ne me voyait-il pas. Et il restait de longues minutes, silencieux, la figure grimaçante, les yeux emplis d'un feu sombre, à regarder sa toile. « Ah, c'est toi !» disait-il ensuite, du ton d'un homme ennuyé qu'on le dérange. Il se levait, arpentait l'atelier d'un pas fébrile, heurtait sa pipe contre les murs pour en faire tomber les cendres, et criait de temps en temps « Cochon que je suis, salaud, misérable salaud, et dire pourtant que je sens ça, que je comprends ça, et que jamais, jamais je ne pourrai rendre ça, et que jamais, jamais je ne pourrai rendre rien, rien !» Puis tout d'un coup, m'empoignant le bras, rudement et m'amenant devant sa toile, il me demandait « Voyons, toi, dis-moi, que penses-tu? Hein? Est-ce assez ignoble ?» Son art me troublait, par son audace et par sa violence. Il m'impressionnait, me donnait de la terreur, presque comme la vue d'un fou. Et je crois bien qu'il y avait de la folie éparse en ses toiles. C'était des arbres dans le soleil couchant, avec des branches tordues et rouges comme des flammes, ou bien d'étranges nuits, des plaines invisibles, des silhouettes échevelées et vagabondes, sous des tournoiements d'étoiles, les danses de lune ivres et blafardes qui faisaient ressembler le ciel aux salles en clameur d'un bastringue. C'était des faces d'énigmes, des bouches de mystère, des projections de prunelles hagardes, vers on ne savait quelle douloureuse démence. Et c'était encore ceci qui m'obsédait, comme la vision de la mort. Un champ de blé immense, sous le soleil. Un champ de blé dont on ne voyait pas la fin. Et un tout petit faucheur, avec une grande faux, qui se hâtait en vain, hélas. Car on sentait que jamais il ne pourrait couper tout ce blé, et que sa vie s'userait à cette impossible besogne sans que le champ, sous le soleil, parût diminuer d'un sillon. Je ne voyais que l'incohérence, le déséquilibre de ses imaginations excessives, et j'étais incapable, trop neuf aux émotions esthétiques, d'en goûter la beauté picturale et la grandeur décorative. Je répondais timidement d'une voix tremblée. C'est bien beau, mais cela m'effraie un peu. Sans doute que je n'y connais rien, mais je trouve ça exagéré un peu. Exagéré, un mot qui me revenait de mon père, dont c'était l'habitude de juger ainsi les choses qui contenaient une parcelle d'émotion, un frisson de vie, une lueur de pensée, une pulsation d'amour. Alors, à ce mot, Lucien s'emportait. « Exagéré ! Mais l'art, imbécile, c'est une exagération ! L'exagération, c'est une façon de sentir, de comprendre, c'est chaque chose, chaque être, chaque ligne, tout ce que tu vois, contient un caractère latent, une beauté souvent invisible,
Eh bien, l'art, exagéré, tu es un idiot, c'est ignoble. Voilà ce que c'est rien, et je suis une brute. Allons dîner. »
Et d'un geste violent, il retournait sa toile contre le chevalet quand il ne la crevait pas d'un coup de poing furieux.